Bienvenue au Politiqueur épisode spécial avec Nicolas.
Yes, salut Nicolas.
C'est drôle, Nicolas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, celle-là.
Non, mais j'aime vraiment ça. Toutes les fois que tu fais, on fait cette intro-là, que là, c'est salut Nicolas, puis là, c'est comme une grosse écho, là.
Ouais, on s'amuse beaucoup avec ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, d'ailleurs, cet écho-là.
Au moins 20 d'ailleurs. Minutes.
Non, on l'a pas fait dans les dernières 20 minutes. On s'était gardé une gêne dans le précédent. Fait qu'on revient à nos vieilles habitudes. C'est-à-dire, on revient dans nos vieilles pantoufles. Cette fois-ci, tu m'as suggéré qu'on aborde la souveraineté numérique.
Oh yes.
C'est un sujet qui est très intéressant. T'es en quelque sorte dans l'œil de l'ouragan. Parce que autant tu as travaillé chez Google avec le partenaire avec Sense, qui est à l'aise. Et dans le contexte où tu es rendu maintenant chez Palo, tu es quand même exposé à cet environnement-là parce qu'il est. Il était négligeable au moment où on en parlait il y a quelques années. Maintenant, il ne l'est plus parce que c'est le centre de la conversation. Fait que je veux t'entendre un peu sur cet aspect-là parce que les choses ont tellement changé depuis. Et le contexte dans lequel tu es confronté maintenant t'expose davantage à cette réflexion-là. Ce qui, quand tu étais chez Google, n'était pas le sens de ta réflexion. Là.
Mais quand j'étais chez Google, je savais même pas que ça existait. OK? Fait que là, pour ceux qui écoutent, je vais remettre un peu de contexte sur c'est quoi cette affaire-là qui se passe en France, l'autre bord de l'océan, avec Thales et Google Cloud. OK? Pour te donner, pour le vulgariser, là, imagine une franchise de McDo ou de Tim Hortons. En gros, quand tu as une franchise de McDo ou de Tim Hortons, c'est toi comme franchisé, tu fais un investissement, tu vas acheter le building, tu vas acheter la recette pour savoir comment faire des burgers ou des beignes, tu vas l'opérer puis tu vas avoir toutes les meilleures pratiques du franchiseur, mais c'est toi qui vas rouler ta business. Donc, quand tu es un McDo ou un Tim Hortons, c'est un moi inc, c'est pas un business corpo, donc c'est vraiment une petite PME qui porte l'enseigne de la grande corporation. Tout ce que je viens de te décrire là, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ce qu'on appelle le Google Cloud Dedicated. Donc, GCD. Le Google Cloud Dedicated, ce que c'est en gros, c'est Google a bien réalisé qu'il y avait une demande pour avoir des clouds souverains, mais tu sais, des clouds souverains qui sont à propriété d'un autre pays, qui ne sont pas propriété d'une compagnie américaine. Donc, ce que Google a fait à deux places. Donc, pour le moment, c'est en France et en Allemagne. Ils ont fait des partenariats avec des compagnies locales. Donc, dans le cas de la France, c'est avec la compagnie Thales. Il y a eu un partenariat entre Thales et Google, où est-ce que Thales a créé une nouvelle compagnie qui s'appelle Sense. S3NS, donc c'est comme ça que c'est écrit, sense.io si vous voulez aller sur Internet. Cette compagnie-là est propriété majoritaire de Thales, donc une entreprise française est propriétaire de ça. Ce que Google a fait, pour la référence par rapport au franchisage, c'est que Google a donné la recette de Google Cloud à l'intérieur de ce partenariat. Ça a été ça leur rapport. La recette, c'est deux choses. C'est le hardware, c'est le software. Donc, le hardware étant comment bâtir un data center, donc comment avoir les bons serveurs, le bon storage, le bon network, exactement suivant la recette de Google, mais propriété de Sense. Donc,
propriété opérée par.
Opérée par Sense. Non, mais
la propriété demeure quand même de chez Google.
En fait, il y a deux.
La recette, c'est comme quand tu parles de l'idée de franchiser, la recette appartient quand même au franchiseur. Le franchisé opère la recette du franchiseur.
Ah, ça, il faudrait demander aux spécialistes. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a deux versions de Sense, OK? Il y a la première qui s'appelle Cryptance et la deuxième est Premiance. Donc, Cryptance, ce que c'est littéralement sur Google Cloud. Donc, ce n'est pas propriété de Sense. Sur Google Cloud, on va appliquer des règles de souveraineté numérique à même le folder. Donc, pour ceux qui connaissent un peu comment Google fonctionne, on a le org. À l'intérieur du org, on peut créer des folders. Dans le folder, tout ce qu'on met dans le folder, il va y avoir des règles, des org policy. J'arrive pas à trouver la traduction politique. Donc, le org policy va dire tout ce qu'on met dans ce folder-là doit respecter les règles X, Y, Z. Ces règles-là de ce folder-là, le folder est régi par sens et la clé d'encryption et certaines règles de gouvernance, de souveraineté, sont enforcées à même le folder. C'est-à-dire qu'un client français qui crée sur Google Cloud un folder pour mettre des workloads, du moment qu'on allume la machine virtuelle ou le Kubernetes, le cluster Kubernetes, automatiquement les règles de gouvernance du folder vont s'appliquer. Puis les règles de gouvernance du folder disent que tout workload à l'intérieur de ça doit avoir sa clé d'encryption. Donc, le chiffrement doit être fait à même l'instance de sens. Cette instance-là, propriété française. Donc là, c'est là qu'on book la book, en fait. C'est-à-dire, on assure que l'encryption et les droits d'accès puis les droits de localisation, donc où sont situés ces workloads-là, sont sur un territoire français.
Ça, c'est intéressant, cette présentation-là, parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont la critiquer. Ça y est, c'est quand même opéré par les Américains, machin, blanc. C'est méchant. Puis pour l'avoir vu dans d'autres contextes, ce qui est important de comprendre, c'est que des règles technologiques appliquées sont excessivement rigides. C'est pas comme des règles entre humains où on est capable de comme tolérer ou tordre un peu les règles, parce que quand on négocie entre humains, on va tendance à tordre un peu, ou comme on regarde le système de justice, il y a cette espèce d'espace d'interprétation qu'un humain qui va arbitrer quelque chose pour avoir un état. La machine, elle l'arbitre pas. La machine exécute les règles telles qu'elles sont.
C'est ça.
Et ça, c'est très important, puis j'ai vu dans beaucoup de contextes, puis là, je vais faire de la parenthèse qui est une parenthèse M305, malheureusement, avec les étiquettes dans l'environnement M305. Et j'ai été confronté il y a quand même plusieurs années, et ceux qui l'écoutent, vous reconnaîtrez. Je m'étais fait assassiner sous fait, oui, mais les règles, machin, moi, je veux telle affaire. Je les avais avertis. Vous savez, si on applique des règles, les règles ne sont pas négociables. S'ils sont appliqués, ils sont appliqués telles quelles et vous allez les vivre jusqu'au bout. Il n'y a pas un bouton « Ouais, ça ne tente pas aujourd'hui, je fais le pas parce que ça, c'est impossible. » La règle, elle est là, elle est appliquée. C'est une règle technologique. Aucune négociation. En l'espace de 24 heures, le projet pilote a terminé parce que les gens ne pouvaient pas tolérer les règles qui étaient appliquées. Mais c'est les mêmes règles qu'ils m'avaient exigées, sur lesquelles je l'avais dit « Non, faites pas ça, c'est un mauvais plan parce que vous allez mourir avec ça parce que ça se peut pas. » Et la compréhension. Donc, pour revenir à ce que tu dis et ce qui est important de comprendre, ces règles-là sont enforcées, sont appliquées de façon brutale. Même si on prétend, oui, mais c'est quand même américain, les règles sont appliquées de brutale. Il y a une clé de chiffrement et ceux qui ont minimalement une base en crypto vont comprendre que tu peux essayer de faire une crise du bacon, même chez Google, à l'intérieur de chez Google, la crise du bacon ne cassera pas la crypto qui bloque le démarrage des payloads qui va avec. Fait que ça, c'est un avantage que je trouvais nécessaire parce que j'en vois beaucoup de textes sur LinkedIn qui disent à peu près n'importe quoi sur la souveraineté. Et ça, OK, c'est pas parfait légalement, machin, on peut prétendre, mais la clé, elle est dans une propriété française et sans la clé, puis si on veut prendre le CLADAC qui fait peur à tant de monde, le CLADAC ne peut pas casser ça. La clé est en sol Europe français. Et donc,
voilà.
Pour accéder au contenu, il faut être capable de forcer l'entité française, ce qui est et impossible voilà. À l'heure actuelle. Donc, c'est une forme de protection efficace contre le CLADAC. Donc, bref, faites votre crise de bacon, vous n'aurez pas la clé.
mais, dans le fond, si on résume un peu, le sens a essentiellement deux offres, le cryptance puis prémiance. Je vais revenir à prémiance parce qu'en soi, celui-là, il est super intéressant. Pour cryptance, c'est essentiellement l'infrastructure de Google Cloud sur laquelle on enforce ces politiques-là. La clé d'encryption est forcée sur tous les workloads qui sont dans ce folder-là. Bon, pourquoi Palo Alto est là-dedans? C'est ça la question. Là. Maintenant, je travaille chez Palo Alto. La raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, c'est que la semaine prochaine, je m'en vais à Paris. C'est la grosse conférence de sens. Donc, et on m'a demandé d'aller parler, d'aller expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est un peu le sujet du podcast aujourd'hui. Donc, pour Cryptance, c'est Google Cloud native sur lequel on force un workload à adopter la région de Google Cloud française avec les clés d'encryption, les droits et tout ce qui est régi par la gouvernance. Donc, mais ça reste sur Google Cloud, sur l'infrastructure de Google Cloud. Donc, ça, c'est Cryptance. Si on veut aller pousser sur l'autre offre s'appelle Prémiance. Et là, à ce moment-là, c'est très différent. Et là, on va chercher un peu le concept de franchisage que j'ai expliqué au début. Parce qu'à ce moment-là, Thales avec Google ont bâti des data centers. Littéralement, ce sont de nouvelles régions qui sont propriétés de Thales et de Google, donc propriétés de Sens, mais qui utilisent le blueprint, donc qui utilisent la même architecture ou très similaire à une architecture d'une région.
C'est le livre de recettes qu'on...
C'est le livre de recettes.
Ils ont loué, parce que ça demeure loué oui. quand même, ils ont loué le livre de recettes de Google pour mettre en œuvre
un data center.
Qui est tel quel aux normes, mais qui est opéré par Google.
Qui n'est pas opéré par Google. Donc, ce qui arrive, c'est que Sense a la recette hardware et la recette software. Puis c'est là que tu fais la grosse différence par rapport à n'importe quel autre offre de cloud soi-disant souverain qu'on peut retrouver ici au Canada. Donc, la différence, c'est que le logiciel, c'est aussi une copie du logiciel de Google Cloud. Donc, on a des systèmes comme BigQuery, on a des services comme Compute Engine, comme Google Kubernetes Engine, on a du PubSub, on a du Cloud Storage, évidemment, c'est pas 100% des produits, c'est un subset, mais c'est essentiellement les produits les plus importants de Google, mais les produits logiciels. Donc, non seulement on a donné le hardware, la recette du hardware, mais on a donné la recette du logiciel et Sense opère ça. La raison pour laquelle moi, je m'en vais là-bas, donc c'est parce que Palo Alto veut pas, nos clients s'attendent à avoir certaines technologies de Palo Alto sur ces clouds souverains-là. Numéro un, c'est les firewalls. Évidemment, un client, peu importe que ce soit Cryptance ou que ce soit Prémiance, mais là, les clients, la première chose qu'ils vont demander, c'est ben, mais moi, j'ai du pare-feu Palo Alto Next Generation on-premise. Maintenant, sur mon cloud souverain, je veux avoir la même chose. Ce qui est super intéressant dans les deux cas, dans le cas de Prémiance ou de Cryptance, ben, la recette, littéralement, la documentation officielle de Google aujourd'hui, tu la prends, tu l'appliques. Pour Cryptance, c'est facile parce que la règle de policy est enforcée au niveau du folder. Donc, littéralement, c'est la même configuration. Pour Prémiance, la seule chose qui change, c'est le domaine. Au lieu d'être googleapi.google.com, au lieu d'être console.cloud.google.com, ben là, on va utiliser le domaine de Sense. Tout le reste, c'est pareil. Donc, les scripts, les Terraform, tout ce qu'on aurait développé pour opérer son code sur Google, ben essentiellement, c'est copy-paste.
C'est un search and replace, puis on est capable de repartir la même chose, mais avec Prémiance qui offre une plus grande assurance de souveraineté, en l'occurrence.
Exact. Prémiance est certifié Secnum Cloud. Est-ce que tu connais Secnum Cloud?
Oui, je connais ça.
Moi, je ne connais pas Secnum Cloud.
J'ai fait un podcast avec le CISO d'OVH, justement, qui m'avait expliqué tout le chemin dans lequel il avait obtenu ce genre de choses-là. Moi, je n'ai pas passé à travers. C'est un ensemble de normes, de vérification et de gouvernance et d'analyse de risque combinées. C'est très intéressant comme approche parce que ça offre quand même une certaine souplesse, un certain regard, mais c'est autant de la conformité, autant de l'analyse des risques et autant on a un vérificateur externe qui est moins rigide que PCI DSS, par exemple, mais qui est beaucoup plus compréhensif et capable de comprendre le contexte, qui va venir confirmer qu'on répond aux dites normes. Je pense qu'on l'a rendu à la troisième version de ça. Fait que ça roule déjà depuis plusieurs années comme norme. Ils l'ont testé, ils l'ont adapté, ils l'ont fait évoluer avec comment les technologies sont, avec comment ça se passe sur le terrain, de passer d'un regard purement théorique en 2000, loin. Je ne me rappelle plus de la date, d'ailleurs. La version 1, je ne me rappelle pas, c'est 2000 loin.
C'est pas nouveau. Donc, c'est pas nouveau. Septembre Cloud, c'est
mais
quelque
ça
chose...
fait quand même, le Technic Club date quand même de plusieurs années. Il y a eu quand même une bonne réflexion. Ça a été largement testé sur le terrain. Fait que si Sense s'est conformé aux ces règles-là, c'est un ensemble de règles qui sont quand même pas rigides, mais au sens où ont été testées sur le terrain. Fait qu'ils sont rigides au sens où ils sont tough. C'est une mauvaise sensation, mais c'est plus comme tough parce qu'ils ont été. Ils ont été testés et non tough parce que c'est difficile de passer à travers, là, mais c'est dans cet regard-là. Le mauvais sera de ça. J'aime mon côté québécois, il y a trop d'apparaître.
Ce qui est, par rapport à Sectum Cloud et Palo Alto, nous, c'est sûr qu'il y a deux façons de regarder les produits de Palo Alto sur les clouds souverains. Tu sais, on a une grosse partie de notre offre qui sont des SaaS. C'est vraiment, c'est hébergé dans le cloud. Le client, il consomme le SaaS. Évidemment, ça, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est offert sur Sense. Ce qui va être offert sur Sense, c'est tout ce qui est basé sur des VM, sur des machines virtuelles, qui sont essentiellement la même technologie qu'un client pourrait avoir on-premise, mais là, il l'amène dans son cloud souverain. Donc, on parle chez Palo Alto des VM Series, donc les Firewall Next Gen. On parle de Prisma AIRS, le AI Runtime, donc le Firewall à AI, qui permet de bloquer contre Prompt Injection, DLP, toutes les attaques. Donc, encore là, c'est VM-based. Panorama, la console de management des firewalls, c'est une VM en soi. Fait que cette VM-là, on peut la porter sur autant Cryptance que sur Premiance. Puis le dernier qu'on a, c'est XOR. Donc, toute l'orchestration pour faire de l'incident response. Encore là, c'est une VM, ce n'est pas un SaaS. Donc, par défaut, tous les produits de Palo qui sont VM-based, donc les quatre que je t'ai mentionnés, ben, peuvent être déployés sur Premiance ou sur Cryptance, puis être conformes à la réglementation Sectum Cloud.
C'est très intéressant parce que c'est quand même une exigence qui est quand même tough à atteindre. Pour avoir eu la conversation avec le CISO d'OVH, c'est pas un chemin facile. Fait que la barre est très haute, donc d'avoir réussi à passer à travers ce degré de conformité-là, c'est quand même exceptionnel. Donc, ça donne un degré d'assurance que l'opération, tout le fonctionnement et respecte les normes dites souveraines selon le regard que ça a. Fait que ça devient très intéressant. Mais ce que tu mentionnes, c'est intéressant aussi parce que tu sais, la réalité du cloud. C'est des VM-ish tout le temps, c'est de l'infrastructure. Et je pense qu'on a perdu un peu avec le temps la compréhension de ce que le cloud. Oui. C'est pas info magique. Il y a quand même de la technologie en arrière. C'est de la mutualisation. Fait qu'on finit par partager de toute façon.
C'est ça. Moi, je vois le cloud comme du logiciel d'abord et avant tout. Quand on me dit « Ah, le cloud, c'est des serveurs qu'on héberge. » Oui. On peut parler de ça, mais à la fin de la journée, ce qui est le cloud, c'est du logiciel. C'est la capacité de rouler du software. Malheureusement, il y a beaucoup de l'offre soi-disant souveraine qui est offerte sur le marché aujourd'hui qui est basée sur des VM. Donc la VM en soi, il n'y a pas de valeur là-dessus. Ce qui a une vraie valeur du cloud, c'est la dématérialisation, c'est les microservices. C'est l'élasticité à l'infini.
Ben, c'est la mutualisation, c'est notamment l'élasticité. L'élasticité, un des éléments fondamental, si on prend la définition du NIST qui définit les éléments de cloud parce que je l'enseigne, et un des éléments importants, c'est l'élasticité. Si tu n'as pas d'élasticité, c'est pas considéré du cloud en tant que tel parce que c'est l'élément de base. Et si on va dans une VM pure et dure, il n'y a nécessairement pas d'élasticité associée à ce genre de choses-là.
Il n'y a pas d'élasticité là. Tu sais, ce qu'on veut, c'est rouler des containers. Ce qu'on veut, c'est on prend notre application, c'est la fragmenter en microservices, puis de se dire, ah bon, je vais prendre une application de paiement en ligne ou une application de commerce de détail en ligne. Mais là, je vais avoir une application pour le front, un microservice pour le front-end, un microservice pour le cart, un microservice pour la recherche, un microservice pour des recommandations, un microservice pour le paiement, un microservice pour ton historique d'achat. Puis là, par la suite, selon la demande, ben, on va allumer plus ou moins de containers de ce microservice-là. Mais ça va être stateless, ça va être quelque chose qu'on peut détruire à la demande. Il n'y a pas de système d'exploitation en arrière de ça. Donc, la magie du cloud, elle opère là. Donc, maintenant, d'être capable de le faire sur un cloud souverain, là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas limité à rouler des machines virtuelles sur notre cloud et donc avoir toute la série de dépendances à VMware, de la série de dépendances à Windows, à toutes sortes de logiciels qui sont, à la fin de la journée, superflus. Ce qu'on veut, c'est rouler l'applicatif. L'applicatif, c'est l'applicatif que quelqu'un, qu'un développeur a codé. Et donc, si on est capable de combiner cette application moderne-là à la souveraineté de son infrastructure, là, c'est gagnant-gagnant. Là, on rentre dans vraiment la prochaine génération de cloud souverain. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup des systèmes aujourd'hui qui roulent, qui ont tardé à être modernisés. Puis que si on les modernise, ben maintenant, on va les rouler sur des vraies infrastructures.
Je suis plus que d'accord avec toi. Puis c'est un peu un regard sur le fait que le passage au cloud, pour beaucoup de gens, ça a été genre, j'envoie mes problèmes ailleurs, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et plusieurs clouders, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste pris ce qui existait déjà sur site, puis l'ont mis dans le cloud, puis l'ont mutualisé, c'est-à-dire qu'ils ont juste pris une plus grosse instance de ce qu'il y avait sur site et ils l'ont partagé à plusieurs clients. Le problème de ça, puis quand tu arrives en souveraineté numérique, comme tu le mentionnes, c'est que ça ne fonctionne pas parce que la souveraineté exige une partition claire de tes services, donc de l'opération de ton compute. Et pas tout le monde sont prêts à couper le compute pour le permettre de fonctionner que dans un territoire défini, parce que c'est ça la souveraineté. On a un territoire, dont la France, parce qu'elles sont très vocales là-dessus. Territoire français, mais là, tu as découpé ton logiciel pour qu'il fonctionne que sur le territoire français. Et donc, tu l'as fait comme ça. Quand beaucoup d'opérateurs ont décidé, on a un regard mondial, il n'y a pas de découpage. On partage en un gros serveur d'email à travers la planète au complet, puis tout le monde est branché dessus. Fait que c'est sûr que pour l'opérateur, il y a une économie de coût très importante. Mais quand on embarque dans la souveraineté, là, on est complètement à l'opposé de tout ça. Et là, il faut recommencer à partitionner dans des plus grosses partitions, comme c'est des partitions nationales. Mais il y a quand même des complexités sous-jacentes d'anciennes technologies qui quand même existent en cloud.
Non, je suis vraiment très emballé par cette idée-là. Sans a lancé son offre en GA, donc en General Availability, c'est-à-dire que là, c'est vraiment en production, ça a été lancé en octobre. Là, ce qui se passe, c'est que au mois de février, ben il va y avoir la conférence, le SANS Summit. C'est là qu'on m'a demandé d'aller participer, d'aller expliquer exactement pourquoi la technologie de Palo Alto et comment la technologie de Palo Alto peut fonctionner sur ce cloud souverain-là. J'ai vraiment très hâte à la suite des choses parce que, évidemment, la souveraineté numérique avec les clouds comme ça, ça va juste continuer à croître. Je suis convaincu que Google va arriver avec cette offre-là ailleurs. J'espère que ça va venir au Canada. Et à ce moment-là, maintenant, la question qu'on va devoir se poser, c'est bon, mais on a-tu un équivalent de Secnum Cloud au Canada? Est-ce qu'on a ça? Fait que ça, c'est une bonne question pour le spécialiste que tu es.
La réponse est non. Oh. Pour ce site-là, non, parce que on n'a pas eu de réflexion comme ça encore ici. On est un peu en retard. On se réveille. Avec ce qui s'est passé depuis la dernière année, on est en train de se réveiller à cet état-là. Mais la maturité, comme la France ou l'Europe en général ont, eux, ils ont réfléchi pendant plus longtemps. Fait qu'on ne peut pas arriver au même stade, au même moment. Et ça va exiger, puis je le mentionnais, à beaucoup d'opérateurs cloud actuels de devoir couper leurs services dans un point de vue national et d'arrêter de vouloir le concentrer dans des grands blobs semi-internationaux par très grandes régions. Fait qu'il va y avoir un retour à la réflexion fondamentale de tous ceux qui ont su découper les services et qui sont, comme tu le mentionnes, vous êtes capables de Google et Palo d'être capables de segmenter l'offre d'un point de vue national dans un cas de la France, parce que SANS est un exemple de matérialisation, mais ça demande un effort de réarchitecture. Et l'architecture, il faut qu'elle soit découpable, mais je ne suis pas sûr qu'on est dans un univers comme ça chez tout le monde.
Oui.
De ce que je vois, puis là, au-delà des grands hyperscalers, il y a beaucoup de services qui n'ont jamais été réfléchis pour être découpés. Ils ont juste été réfléchis pour une croissance linéaire sans rapport avec aucun découpage national. Et je pense que beaucoup de ces compagnies-là vont devoir réfléchir leur découpage, leur architecture, Il y en a qui sont plus faciles, d'autres vont souffrir davantage. Mais de commencer à segmenter de façon nationale comment les morceaux se placent, un peu comme vous avez vu.
Ce qui amène à l'autre point, c'est, on parle, là tu parles d'applicatif. Là, on dit, OK, on roule l'applicatif, on resegmente, on recrée l'applicatif, mais... T'sais, la réalité, c'est que ces applicatifs-là, il y en a certaines, là, ça a 15, 20, 20, 25 ans. C'est pas demain la veille que ça va être écrit. On voit ce qui s'est passé avec SACLIC. C'est pas nécessairement des processus qui sont faciles. Mais ce qu'on peut assurément dire, c'est tout ce qui est nouveau. T'sais, on parle de l'AI. Ah, un AI souverain sur un cloud souverain, là, on commence à aller ailleurs. T'sais, si on veut rouler le modèle... localement, comment qu'on s'assure que ça respecte certaines règles. Et encore là, on a des enjeux de gouvernance, de réglementation. C'est tout à faire au Canada.
Le développement de compétences, c'est pas là au niveau canadien, il y a un développement de compétences, un développement de compréhension. Qu'à bien des égards, on s'est laissé porter par les Américains pendant très longtemps. C'était facile. On avait la locomotive était devant nous. Puis on a agi comme un wagon pendant longtemps. Là, maintenant, il faut se transformer d'un wagon à une locomotive. Il va y avoir une phase de transition parce que c'est pas facile. Le wagon, il était juste un wagon. C'est le fun. Là, il faut que tu mettes un moteur, il faut que tu mettes des choses, il faut que tu mettes un opérateur, des chefs de train. Fait qu'on a comme un chemin à faire. Je le vois que le chemin est en train de se faire. Ça, c'est très heureux. Parce que
c'est
la capacité, la vivacité est là. Mais la réalité, c'est qu'il y a mécaniquement du temps qu'on doit faire, il y a du temps, la compréhension qui ne peut pas aller plus vite que ce que c'est. Et la France, pour ça, tu parles de cette nuque-là, ils ont de l'histoire.
Oui.
Il faut qu'on construise notre histoire, mais ça va prendre du temps, puis il faut être patient.
Je trouve que les Français ont été... où ça a été brillant, leur chose, on dirait qu'ils ont anticipé ces besoins-là, parce qu'on s'entend, là. Quelque chose comme Secnum Cloud, là, c'est pas quelque chose que tu inventes. C'est des années de réflexion. Par la suite, si tu veux être un fournisseur qui est compatible, qui est certifié par ça, c'est des années de développement. Donc, ils n'ont pas commencé ça la semaine dernière. Tu sais, c'est une journée qu'ils ont commencé il y a très longtemps pour en arriver aujourd'hui à avoir une certification et l'infrastructure pour la soutenir. Écoute, on est loin de ça ici, là.
Très, très, très loin. On s'est réveillé début de l'année passée. Essentiellement, on s'est réveillé là. Quand les Français, si ma mémoire est bonne, puis lancez-moi les tomates, si je me trompe, je pense en 2017 que cette nuque cloud est devenue de connaissance publique.
Ça fait neuf ans
là, à l'heure actuelle. Wow. Fait que c'est pas nouveau que la réflexion est présente. Donc, ils ont l'expérience, ils l'ont testé. Il y a eu des ratés, ils ont amélioré, ça l'a avancé. Fait que c'est un concept beaucoup plus mature.
Exact. Puis, quand on aborde la souveraineté, j'ai l'impression que c'est un disque qui saute. On est tout le temps en train de rabâcher les mêmes choses over and over. Ah, souveraineté, souveraineté, souveraineté. Oui, mais il faut se donner les moyens en termes de régulation, en termes de conformité. S'il n'y a pas de règles, puis qu'on fait juste permettre à tout un chacun de clamer au effort que son cloud est plus souverain que l'autre. Non, mais on s'entend.
Il faut des règles, il faut des normes, il faut des stratégies. Tu sais, j'en ai parlé. Là, cet épisode, je ne sais pas quand il va sortir, mais au moment où on enregistre le lundi de cette semaine, j'ai sorti un épisode, justement, je parle, c'est la ville de Munich qui a développé ses stratégies d'évaluation de ses logiciels et son offre cloud. Donc, il y a des villes allemandes qui sont en train de le faire. Il y a le Secnum Cloud. Fait qu'il y a un paquet de gens qui explorent cette situation-là avec un background beaucoup plus intéressant que les Canadiens, malheureusement, en l'occurrence. Mais il y a un chemin. On devrait s'inspirer beaucoup de ce qui s'est fait ailleurs pour commencer à construire un chemin et probablement s'aligner avec le chemin qui a été fait ailleurs. Il y a une panoplie de choses. Puis ça ne veut pas dire un rejet systématique des opérateurs américains. Il y a des choses intéressantes chez les opérateurs américains qu'on peut aller chercher, qui sont pas très graves, qu'on peut faire comme ça. Il y a des moyens hybrides comme Sense, qu'on le voit en France, où on va sur une étape plus loin qui est intéressante aussi. Et on peut aller justement littéralement avec un opérateur local qui est capable de faire d'autres choses. Si on parle le modèle français, c'est OVH qui est l'opérateur local type. Mais lui-même, l'OVH, se veut être un hyperscaler international. Donc, lui-même se trouve avec un défi de travailler avec des nationalités, des régions régaliennes, parce que c'est un terme que les Français aiment beaucoup. Différentes, donc, de devoir naviguer là-dedans. Fait que ces multinationales-là qui nous offrent des avantages d'économie d'échelle, les Américains emmenaient. Les Français avec OVH emmènent quand même certaines. Les Chinois emmènent, tout le monde emmène. Fait que ça, il faut regarder comment on est capable de reconfigurer le paysage. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui s'est vraiment posé les questions de comment on est capable de collaborer, d'opérer une infrastructure souveraine en collaboration internationale. Et c'est très difficile. Tu me mentionnais, genre, la poursuite qu'OVH a subie au Canada, qui est un exemple de cette espèce d'espace d'incompréhension de comment ça fonctionne et qu'on n'a pas de regard profond sur comment on opère à l'international tout en dans le respect des législations locales et comment tout ça se fait. Fait qu'on est comme dans un flou et tout le monde essaie d'improviser. Fait que c'est très...
Bref, ce qui se passe en Europe, je crois que c'est super inspirant. On devrait vraiment porter une plus grande attention. Tu sais, quand je regarde sur les réseaux sociaux ici, le sujet de la souveraineté numérique, c'est tout le temps les mêmes choses qu'on entend. On parle très peu de ce que ça se fait au Canada. J'aimerais vraiment qu'on mette un peu plus le focus là-dessus parce que ce qu'ils ont fait, tant au niveau réglementaire qu'au niveau infrastructure, ce que Thales a bâti avec Google par rapport à Sense.
Moi, ça fait plusieurs années qu'il l'a pas. Ça fait 3-4 ans que ça existe.
Mais là, de ce que j'en ai compris, là, moi, encore là, je suis tout nouveau dans ça. Palo Alto vient d'embarquer dans ceci. Fait que, je ne pourrais pas te dire pour le passé, mais depuis que moi, je travaille là-dessus, c'est-à-dire depuis l'automne dernier, nous, on a embarqué pour pouvoir offrir notre technologie parce que nos clients, ils s'attendent à pouvoir opérer leur pare-feu. Les pare-feu qu'ils avaient dans le cloud, on-premise, ils s'attendent à les rouler sur Sense. Puis là, on a cette infrastructure-là. L'offre, elle est solide. La compagnie est sérieuse. Il y a du bon backing en arrière au niveau financier. Écoute, il y a énormément de gens qui sont enregistrés sur la conférence sur laquelle je présente la semaine prochaine. J'ai très hâte de voir ça. Puis j'espère vraiment qu'on va être capable de faire la même chose ici.
Oui, puis c'est intéressant qu'on va boucler là-dessus. Là, on enregistre. Avant que tu ailles là-bas.
Avant que j'aille là-bas.
Ça va être diffusé, genre, probablement, genre, dans un mois après que tu aies fait ça. Mais j'ai très hâte de voir comment tu vas vivre ton expérience.
Oui.
On va devoir faire un post-mortem de ça parce que c'est super intéressant. Parce que les Français sont très, très ouverts, très dans la discussion, très dans le débat là-dessus. Et ils ont des points de vue arrêtés, des fois des bons, à bonne place, des fois un peu moins à la bonne place.
Ouais, je trouve qu'ils tiennent vraiment leur bout du bâton. Parce que veut pas, on n'a pas tous dans le même contexte géopolitique. Puis j'ai l'impression qu'eux autres, ils ont dit bon, allons-y. On va se donner les moyens de faire ce qu'on veut faire. Puis on va le construire. Et quand même, le construire un data center, des data centers pour répliquer une version de Google Cloud propre à la France, c'est pas simple. C'est pas quelque chose qu'on se lève un matin et qu'on dit faisons-le. C'est des années de développement, des millions de dollars d'investissement. Fait que. Je lève mon chapeau.
Tout à fait. Fait qu'on a un rendez-vous pour ton post-mortem de ça. Ça va être super intéressant. Puis, bref, c'est un sujet qui n'est pas sur le point de terminer.
Non.
Souveraineté numérique. Fait qu'on va en reparler sûrement dans d'autres occasions.
Oh, mais ça m'a fait plaisir, Nicolas.
Mais merci. Oui. Merci, Nicolas.
Merci.
Ah, Nicolas, ça va bien, Nicolas?
À la prochaine.